Oui, ça c'est un champ territorial parce qu'il me voit. C'est pas le vrai le champ de relations intimes, ça. Mais c'est le chant que la plupart des gens entendent, dans la mesure où les chants intimes, ils sont souvent très bas. C'est des petites tchouk, 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 tchouk. Des toutes petites choses comme ça, et en fait, on les entend pas.
Village né de la mer. Chronique d'un village qui déménage. Histoire d'habitants dans le vent.
Tous les naturalistes qui font de l'enregistrement de chants à 3 km, c'est pas 3 km, mais enfin assez loin. Ils ont deux choses. Ils entendent soit ça, soit le chant qui correspond un peu au territoire aussi, mais qui est beaucoup plus puissant. Là, elle oublie la première syllabe. Elle fait. Mais elle ne fait pas le chant complet. Alors, parce que finalement, elle est moyennement inquiète. Parce que c'est que c'est moi, elle me connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais dans d'autres cas, par exemple, quand il passe des oiseaux dans le ciel, là, du coup, elle fait le chant complet. Parce que là, c'est vraiment. Attention, toi, viens pas me voir. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà.
Vous l'ignorez sans doute, mais Saint-Denis-du-Péray abrite le seul centre de reproduction de l'aigle de Bonelli en France. Où ça? Chez Christian Pacteau, qui a eu la gentillesse de m'accueillir chez lui, au milieu de sa collection de plumes, de livres, d'esquisses et d'aquarelles.
Je m'appelle Christian Pacteau, ça fait 74 ans d'ailleurs, c'est toujours le même nom. J'ai eu comme métier d'être enseignant pour des enfants en difficulté scolaire. Parallèlement à ça, comme j'élevais des enfants, j'ai aussi élevé des oiseaux. Je me suis consacré essentiellement à trois espèces, les perruquiers d'Europe, l'autour des palombes et aujourd'hui l'aigle de Bonelli, pour lequel je suis intégré à un organisme espagnol qui s'appelle le GREFA pour faire la réintroduction en Espagne et en Italie des oiseaux qui sont produits ici, qui sont des aigles de Bonelli.
Ces aigles de Bonelli, c'est notamment à Christian qu'on a fait appel pour aider à leur reproduction en captivité, alors qu'ils étaient menacés d'extinction.
Pour parler de mes aigles, je suis obligé de reparler des deux autres espèces, parce qu'en réalité, si je suis arrivé aux aigles de Bonelli, c'est parce que auparavant, j'avais été celui qui avait introduit la reproduction des éperviers d'Europe en France, et ensuite j'avais poursuivi avec l'autour des palombes. Ils sont très proches parents tous les deux. Il y en a un petit, hein, qui est plus important en poids. Et donc je suis arrivé aussi à la reproduction de l'aigle de Bonelli, mais parce qu'on me l'a demandé. C'est l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage qui me l'avait demandé. Sur le moment, j'étais pas très chaud. Moi, j'aime bien les petits oiseaux, pas les très gros. Mais du coup, effectivement, je me suis recentré sur ces oiseaux-là. Et maintenant, je leur trouve un certain nombre d'avantages. D'une part, parce que je deviens vraiment utile à quelque chose. Et d'autre part, surtout, peut-être parce que les aigles de Bonelli m'ont posé des questions plus particulières, en particulier dans la formation des couples. Ce sont des oiseaux qui sont très, comment dire, regardants aux partenaires. Je me souviens avoir eu une femelle qui s'appelle toujours d'ailleurs Verdet. J'ai essayé de la coupler avec trois mâles différents. Elle les a tous refusés. Et puis un jour, je suis tombé sur le bon. Et là, du coup, le couple, mais il se forme dans l'instant. En fait, j'ai l'impression que les aigles de Bonelli fonctionnent selon le principe du coup de foudre. C'est-à-dire que, ou bien spontanément, l'un et l'autre se reconnaissent comme un futur partenaire d'une certaine manière, quelle qu'elle soit, peu importe. Et du coup, dès le jour même, on voit que le couple est formé, tout simplement parce qu'ils sont au perchoir l'un à côté de l'autre. Et qu'ils se suivent les trois quarts du temps d'un endroit à un autre à l'intérieur des grandes volières. C'est pas vraiment ce que j'avais observé avec les éperviers et les autours, mais c'est tout à fait particulier parce que là, je commençais avec des oiseaux poussins qui étaient élevés ensemble. Donc du coup, ils étaient attachés les uns aux autres et ils pouvaient être mis en couple avec n'importe lequel des frères et sœurs d'élevage. Avec les bonnelis, j'ai pas pu le faire. J'ai reçu des bonnelis qui étaient déjà très âgés. Ils avaient au moins 2 mois. Et donc, quand ils sont 2 mois, ils n'ont plus de faculté d'attachement à des étrangers. Et donc, ils étaient presque tous étrangers, sauf quelques couples qui étaient frères-sœurs. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ceux qui n'étaient pas frères-sœurs, j'avais beaucoup de difficultés à faire les couples.
Ces couples, Christian les forme dans un rapaçarium de 1000 mètres carrés, construit juste derrière sa maison.
Donc ici, là, ce couple-là, ce matin, hier soir, on est allé chercher les œufs avec un copain. Et c'est le couple qui, aujourd'hui, se trouve frustré d'œufs. Et donc, normalement, il devrait faire une deuxième ponte.
Une fois les œufs pondus, après quelques jours, Christian prend la main pour les incuber, les voir éclore, puis élever les oisillons, qui quelques temps plus tard seront réintroduits dans leur milieu naturel, majoritairement en Espagne et en Italie.
La théorie la plus fréquente, c'est de prendre les œufs après une quinzaine de jours d'incubation par les parents, parce que c'est encore eux qui font le mieux. Et surtout aussi, me semble-t-il, pour une toute autre raison, c'est ce qu'on appelle l'araignée, là, qui, donc c'est le développement en fait des artères et des veines que tu vois, et puis de l'embryon vraiment au tout début, il est extrêmement fragile. Et si tu fais des gestes un peu brusques, tu peux sectionner une artère, et si tu sectionnes une artère, c'est foutu. Alors là, tu vois, elle vient de partir, là, elle vient de sortir. Mais alors c'est toujours brumeux, c'est un peu le problème. Celle-ci, alors, je ne m'y attendais pas. Ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas pondu. Et ce matin, bingo, il y a un œuf. Et alors c'est marrant parce qu'ils avaient préparé un nid plus loin. Mais en fait, ils étaient sur le balatum et ça ne lui a pas plu. Et elle s'est mise beaucoup plus près, là où il y avait suffisamment d'épaisseur d'aiguille. Et puis elle a refait son nid. Il fait 22, c'est bien. On ne va pas respirer. Alors, les œufs sont ici. Donc, je vais tirer les œufs. Hop. Ah, voilà. Fais très attention. Et on regarde, tu vois, comme ça. Et tu vois que l'œuf, en fait, il est complètement noir. Alors, il est noir parce que le poussin est en train de se développer. Et on est juste au-dessus de la poche d'air. Hein. J'ai pris le gros bout. Donc, apparemment, il y a un bébé là-dedans, de toute façon. Et là, on va regarder. Alors là, c'est mieux formé. J'ai l'impression. C'est mieux formé, ça doit être l'œuf qui est le premier, ça.
Même si on attend suffisamment avant de récupérer et de manipuler les œufs, la viabilité de l'embryon, puis de l'oisillon, reste très incertaine.
Au début, quand j'ai commencé à avoir de la reproduction avec beaucoup de petits, j'en perdais 75%. Parce qu'il y avait toujours de la mortalité embryonnaire, il y avait de la mortalité à la naissance, il y avait de la mortalité à la croissance. C'était absolument effrayant. Puis un jour, j'en ai parlé avec une amie, elle m'a dit bah, avec toi, tu es nourrir. Je lui ai dit bah, des poussins, des cailles. Elle m'a dit si tu continues comme ça, tu es. Bon, d'accord. Alors, si elle me le dit, ça doit être vrai. Donc, je l'écoute, et je lui dis comment je vais faire. J'ai pensé aux ragondins qui sont capturés ici, il y en a partout. Et finalement, je suis allé m'approvisionner à Champagné, là, chez des gens qui capturent les ragondins pour les éliminer. Et j'ai commencé à donner du ragondin. Et là, ça a été absolument incroyable. Je suis passé de 2 ou 3 petits par an élevés à plus de 10. C'est-à-dire pratiquement tous les oiseaux. J'avais pratiquement plus de mortalité. C'est là que j'ai pris conscience que la qualité de la nourriture, c'est absolument... Enfin, ça domine tout, quoi, dans la réussite, quoi. Parce que ce simple petit truc faisait que je passais pour un mauvais éleveur, alors qu'après, je suis passé pour un bon éleveur.
Christian a été le premier à tenter la reproduction en captivité de l'épervier d'Europe, puis de l'autour des palombes, et aujourd'hui de l'aigle de Bonelli. Mais pourquoi, à l'époque, ça n'était pas courant ?
Les Allemands et les Américains avaient commencé, en particulier un Américain qui s'appelait Tom Cade. Il voulait faire la reproduction des grands faucons, en particulier les faucons pèlerins. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fauconniers. Et ils ne pouvaient plus trouver de faucons pèlerins Alors, ils ont pris une solution qui m'a beaucoup déplu et qui me déplaît toujours d'ailleurs, l'insémination artificielle. C'était la solution du moindre effort. En fait, je pense que c'est vrai, les pèlerins posent des, et les grands faucons posent des problèmes particuliers, mais par contre, il suffisait peut-être de réfléchir aux tailles des volières qu'ils leur attribuaient pour comprendre qu'en fait, c'était probablement un problème d'exiguïté. Bon, ça demande à être vérifié, mais ils ont continué sur cette facilité qui consiste à inséminer les oiseaux. Pour moi, je considère que c'est une méthode assez violente.
Je demande alors à Christian si son activité est saluée par le monde de l'ornithologie.
C'est compliqué. Nombre d'ornithologues ont une perception tout à fait respectable, mais qui n'est pas la mienne. Ce qui, le plus souvent, les intéresse est de voir le maximum d'espèces possibles et surtout les plus rares. Ils emmagasinent une image dans leur mémoire et cela leur suffit pour être heureux. Le très grand ornithologue français que fut Jean-Marc Thiollet avait pu, au cours de sa vie, me semble-t-il, voir au moins un spécimen de toutes les espèces d'oiseaux sur la Terre. Certains ornithologues sont dans une opposition radicale par rapport à ce que je fais. Je le sais, c'est ainsi. D'autres sont neutres, d'autres très intéressés. Moi, je ne me considère pas comme un ornithologue, mais néanmoins, j'appartiens à ce monde, j'appartiens au monde du naturalisme, c'est clair, de l'écologie aussi, c'est clair, et je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. La meilleure preuve, c'est la reproduction des aigles de Bonelli, ça aide bien mes amis espagnols par la réintroduction. Pour la restauration des populations. Alors, dans trois endroits en particulier, plutôt la partie Navarre et ensuite la partie autour de Madrid, et puis aussi en Sardaigne, en Italie. C'est eux qui font tout.
Dans le fond, la pratique de Christian est liée à une certaine approche de l'éthologie, que l'on pourrait résumer à l'étude scientifique du comportement animal, mais qui, en réalité, voit s'opposer des courants bien divergents. Attention, restez concentrés, ça en vaut la peine.
Je suis redevable au hasard qui a très bien fait les choses. En feuilletant l'encyclopédie des sciences, une encyclopédie que j'ai constituée par achat de fascicules les uns après les autres, j'ai découvert un article de Gaston Richard qui m'a ouvert les portes de l'éthologie, science que j'ignorais en totalité. Il m'a donné deux concepts clés, celui d'attachement et celui d'ontogenèse. L'attachement, c'est le lien qui se crée entre, en particulier, enfants et parents, et puis aussi, plus tard, dans la vie adulte, entre les partenaires d'un couple. L'ontogenèse, c'est l'histoire de la vie d'un être, puisque ontos, en grec, ça veut dire être, et genèse, la construction. Donc c'est la construction de l'être, et c'est tout simple à comprendre. Sans le savoir, j'ai eu beaucoup de chance, il participait avec Schnerla et Lehrmann aux États-Unis d'idées neuves dépassant le behaviorisme aux aspects mécanistes. Alors on peut citer Pavlov, Skinner, Watson dans ce cas-là, et reléguant les objectivistes, comme Lorenz et Tim Bergen en particulier, qui fondaient toutes leurs explications sur la théorie de l'instinct. Donc l'être était plutôt une sorte de mécanique commandée par ses gènes, en réalité. Cette nouvelle conception de l'éthologie a été appelée la théorie épigénétique du comportement. Alors ça fait un peu pompeux tout ça. Épi, tout le monde sait ce que ça veut dire, il suffit de penser au volcan, épicentre, épi c'est le dessus. Donc épigénétique c'est au-dessus de la construction en elle-même. Comment les êtres vivants vont-ils se construire? C'est ça la problématique qui est posée. Et ils ont donné une définition que je trouve toujours, toujours très juste. Le comportement observable à un instant donné plonge ses racines dans l'histoire du développement de l'individu, dans son ontogenèse. Il faudra néanmoins attendre Griffin, un auteur américain, l'un des pères de l'éthologie cognitive, pour enfin parler de pensée animale en proposant l'image mentale comme moteur de l'exécution du comportement.
Ok, en clair, au lieu de réduire l'animal à une machine dont le comportement serait prédéterminé par ses gènes, on pourrait lui prêter bien d'autres facultés, comme l'intelligence, l'intentionnalité ou encore la sociabilité.
Une question qui me taraude, c'est en fait l'enfermement d'animal dans le mot comportement, comme si l'animal n'avait pas par lui-même des désirs, des volontés, etc. De la même manière, le mot éthologie me gêne parce que dans le fond, pourquoi avoir inventé un autre mot que psychologie ? Pourquoi inventer des choses spécifiques pour le monde animal alors que nous sommes tous des êtres vivants et qui sommes soumis aux mêmes lois ? En tout cas, c'est ce que Darwin a dit. Et donc, il l'a dit dans la mesure où, en fait, on est relié à toutes ces espèces animales. Ce n'est pas parce qu'on a une différence qui est le langage articulé et la présence du rire que finalement les autres êtres vivants sont rien du tout, quoi, en quelque sorte. Donc pour moi, cette question-là est assez fondamentale de comprendre que finalement les hommes n'acceptent pas de reconnaître qu'on est fait, j'allais dire, du même bois, mais c'est pas le même bois, mais c'est un petit peu l'expression qui serait la plus représentative.
Plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison.
J'ai entendu il n'y a pas si longtemps que cela à la radio une personne dire qu'il y avait le règne animal d'un côté et le règne humain de l'autre. Voilà une totale incompréhension du darwinisme et de Darwin et de l'ensemble de la nomenclature concernant les espèces. Nous sommes des mammifères avec une particularité, celle de pouvoir parler et celle de pouvoir rire. Et il faut se mettre ceci dans la tête, que tout le reste est potentiellement possible pour toutes les espèces vivantes qui sont dotées d'un cerveau qui est capable d'avoir au minimum des images mentales.
Je ne suis plus un primate. Si je suis à quatre pattes, c'est pour les relations. Accroché à la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison.
Quand je lui demande d'où lui vient cette passion pour les oiseaux, Christian se replonge dans son enfance et y voit de premiers signes.
Mon enfance n'est pas le livre de Gabriel Garcia Marquez autour de l'inceste, 100 ans de solitude, mais il tient tout de même de la solitude. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevé dans une maison isolée, par ma mère d'abord et aussi par une tante. J'ai vécu entre deux femmes sans pratiquement aucun contact avec d'autres enfants de mon âge à cette époque. Ce qui fait que j'ai eu quand même une certaine solitude en tant qu'enfant par rapport à la classe des enfants, en quelque sorte.
D'accord, mais pourquoi les oiseaux ?
Pourquoi les oiseaux sont-ils venus là ? Parce que ça a été finalement mes compagnons de route. C'est avec les oiseaux, et puis plus généralement des petits animaux de ferme, que j'ai commencé ma vie, que j'ai pu avoir des objets d'attention, d'affection et tout ce qu'on voudra. Alors peut-être aussi que c'est un atavisme, comme on dit, ce vieux mot qui a quand même du sens, parce qu'il se trouve, mais je ne l'ai pas connu, ou très peu connu, que mon grand-père paternel était un oiseleur, c'est-à-dire qu'il capturait des oiseaux qu'il mettait en cage, voilà.
Il y a l'héritage familial, et puis il y a l'héritage d'une époque, qui appuiera l'intérêt de Christian pour les rapaces.
L'histoire a voulu que je naisse à une bien mauvaise époque, en fait, car c'est celle de l'empoisonnement massif de la planète par le début des pratiques agricoles industrielles. Et ça, ça fait en sorte que l'ensemble des grands prédateurs, de tous les prédateurs, des humains aussi, en particulier les femmes, ont été contaminés par ces organochlorés et que les grands prédateurs, les populations des grands prédateurs ont chuté d'une façon absolument vertigineuse et ont failli disparaître. Après avoir passé mon enfance avec des petits oiseaux de cage pour compagnons, j'ai pris conscience de la gravité de la situation créée par l'usage de ces organochlorés. Et c'est pour cela que je suis vraiment investi auprès des oiseaux.
Mais cette passion dépasse le rationnel et l'engagement militant.
Le filtre par lequel je vois ma relation avec l'oiseau est au-delà de l'affectif. Il est de l'ordre de la sensualité, de l'ordre charnel, du besoin de contact, de la connivence mentale qui s'installe entre l'humain et l'oiseau. Disons de la même situation qui peut lier des personnes à leur animal familier, que ce soit le chat, le chien ou d'autres. Cette connivence qui fait dire avec une grande pertinence aux personnes âgées dont la seule compagnie est celle du chat ou du chien justement, il ne lui manque que la parole. Rien de plus vrai. Dans les temps anciens, j'aurais été tout simplement un fauconnier, plus précisément un espervier, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec un oiseau qui s'appelle un épervier et qui va chasser avec lui.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau.
On a réduit la pensée de Simone de Beauvoir de la manière suivante. On ne naît pas femme, on le devient. On pourrait dire la même chose pour les hommes, on pourrait dire la même chose pour les animaux. En réalité, sa phrase initiale n'était pas tout à fait celle-ci, c'était « Être femme n'est pas une donnée naturelle, mais le résultat d'une histoire. » Les processus mentaux sont vrais chez les hommes, comme ils sont vrais chez les animaux, qui ne sont pas humains. Cela me frappe de voir cette pertinence dans cette phrase qui finalement résume tout ce que j'ai à dire.
l'aigle de Bonelli est inscrit à l'annexe 1 de la directive oiseau de 2009, prise par l'Union européenne, afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Il est aussi inscrit aux annexes 2 des conventions de Berne, de Bonn et la convention CITES. L'espèce fait partie de la liste du comité Ornis des espèces d'oiseaux prioritaires pour le financement des programmes LIFE. Si vous voulez savoir si l'on peut observer des aigles de Bonelli en Loire-Atlantique, la LPO de Loire-Atlantique met à disposition un outil en ligne appelé « Les oiseaux de votre commune » que je vous recommande d'aller voir. Merci à Christian de m'avoir ouvert les portes de sa maison, de sa volière, de sa passion. Et merci à Théo Bonnet pour le générique. À bientôt au Pays né de la mer.